France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. C'est un univers virtuel en pleine expansion, calqué sur les activités financières spéculatives, mais qui évite par principe les institutions traditionnelles et qui mobilise à l'échelle planétaire une variété d'acteurs, depuis des opérateurs patentés jusqu'aux gouvernements sous sanction et les réseaux criminels du dark web. Les crypto-monnaies, apparues en même temps qu'Internet à la fin du siècle dernier et revigorées par la crise des subprimes, ont longtemps suscité la méfiance des non-initiés et provoqué plusieurs scandales avant de conquérir de nouveaux publics. Parmi ceux-ci, la famille Trump et d'abord le président des États-Unis lui-même. Début mars, la Maison-Blanche annonçait par décret la création d'une réserve stratégique en bitcoins, qui est l'unité de compte la plus importante, une sorte de Fort Knox numérique aux côtés des réserves d'or fédérales. En janvier dernier, la veille de son intronisation, on s'en souvient, Donald Trump, comme son épouse Melania, avait lancé leur propre fonds crypto, histoire sans doute de gagner quelques dollars de plus. Au-delà de l'anecdote, on vérifie surtout le poids du nouvel entourage, les milliardaires de la Silicon Valley, les rois de la tech, baignant dans cette idéologie libertarienne hostile à l'État et à toute forme de réglementation. Si les États-Unis font office de locomotive, l'essor des crypto-monnaies est aujourd'hui mondial. Plutôt que de crypto-monnaies, parlons plutôt de crypto-actifs, puisqu'un nombre croissant d'entre eux est maintenant adossé à des opérateurs financiers traditionnels. Comment donc fonctionne ce système en circuit fermé, en principe transparent, puisque toute transaction laisse une trace numérique? Phénomène culturel ou percée technologique? Pourquoi une telle hybridation avec les outils classiques au risque d'une déconnexion croissante avec l'économie réelle? Quels sont les moyens d'enquête et de vérification des opérations alors que, visiblement, elles facilitent le blanchiment d'argent et les agissements de certains régimes hostiles et de réseaux criminels? Et puis cette question, pourquoi Donald Trump veut-il faire des États-Unis la patrie des cryptos? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Natacha Valla. Vous êtes doyenne de l'école du management et de l'impact à Sciences Po, ancienne directrice générale adjointe chargée de la politique monétaire à la Banque Centrale Européenne. Claire Balva, vous êtes vice-présidente stratégie d'une néobanque qui s'appelle Desbloc. François Volpout, directeur général de la société Chain Analysis pour l'Europe du Sud, Israël et l'Afrique francophone. Et David Pucheux, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Claire Balva, je commence avec vous, puisque vous êtes dans l'action, j'allais dire au quotidien, non, au temps numérique, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça veut dire une néobanque en crypto-monnaie?
Alors, nous, ce qu'on propose chez Desbloc, c'est un compte courant et un portefeuille crypto dans la même application. En fait, notre mission, c'est de réconcilier un peu le monde bancaire traditionnel et le monde crypto, qui parfois ne se parlent pas et ont du mal techniquement à opérer ensemble. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez des banques qui refusent de recevoir de la crypto depuis des plateformes ou qui refusent d'envoyer de l'argent vers ces plateformes. Et donc pour les investisseurs crypto, parfois c'est assez difficile de récupérer leur mise ou d'investir. Et donc nous, on essaye de résoudre ce problème.
Mais on comprend bien que le principe de base, c'est la spéculation. Ce qui est vieux, enfin ça c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à la crypto se disent, si j'ai bien compris, c'est un système clos, c'est-à-dire qu'il y a une masse monétaire fixe.
Alors, c'est une très bonne question. Quand on parle de crypto, on parle de plein de choses différentes, en réalité. Quand vous parlez de masse monétaire fixe, on parle là uniquement de Bitcoin, qui effectivement a une masse monétaire fixe.
Alors attendez, Bitcoin, c'est la première monnaie.
C'est la première crypto-monnaie, la plus ancienne et la plus grande aujourd'hui. La moitié du marché des cryptos, c'est Bitcoin.
Mais donc, il y en a d'autres avec des noms plus ou moins exotiques.
Il y en a plein d'autres, elles ne valent pas toutes la même chose, elles sont très différentes. Donc, c'est un ensemble assez hétéroclite. Et quand vous parlez de spéculation, en Europe et dans les pays, je dirais, riches, ce qu'on constate effectivement, c'est que le premier motif d'investissement, c'est, alors on peut dire spéculation, on peut dire investissement, en tout cas espérance de gain ou volonté de diversifier son patrimoine. Maintenant, c'est pas forcément la même motivation partout. Hein. On a des gens aussi qui utilisent ces actifs-là pour du transfert d'argent à l'international. On a des personnes dans des pays où il y a beaucoup d'inflation qui vont utiliser des sortes de crypto indexés au dollar pour se protéger de l'inflation, de leur monnaie locale.
C'est ce qu'on voit en Turquie en particulier.
Par exemple, en Turquie, en Argentine,
etc. Istanbul.
Tout à fait. Donc ça, ce sont des usages qui peuvent être différents selon les pays. Et évidemment qu'il y a beaucoup de spéculation, mais il ne faut pas non plus réduire les cryptos uniquement à la spéculation.
David Pucheux, ce qui est intéressant, c'est, on a l'impression que c'est un phénomène récent, mais en fait... cette idée d'une liberté d'action dans l'espace numérique, ça remonte aux origines d'Internet.
Oui, tout à fait. Effectivement, le Bitcoin apparaît et les crypto-monnaies avec le Bitcoin en 2008, mais aux yeux de l'opinion publique internationale, j'allais dire. Mais en fait, c'est un projet qui est là dès le début d'Internet, dans la Californie des années 90, puisqu'en fait... ça s'inscrit dans un plus large projet que celui de la cryptographie civile en ligne. C'est-à-dire, dès le départ, avec Internet, il y a un imaginaire qui se déploie dans la Californie, alors qui est informé effectivement par des idéologies libertariennes, très individualistes. Et l'idée qu'en fait, Internet pourrait être un espace d'échange transnational, à la fois des idées, donc la cryptographie, ça peut servir tout simplement à échanger des messages sans être lu, sans être connu, de façon anonyme, et aussi à transactionner finalement, donc à échanger sur un marché qui serait transnational et du coup qui déborderait les États-nations effectivement, qui permettrait d'échapper à la fiscalité notamment, et par ailleurs qui permettrait finalement une liberté individuelle totale. Hein. C'est pas simplement la question d'échapper à la fiscalité, c'est échapper aussi au radar en fait, tout simplement des États.
Donc aucun
et de
contrôle.
La régulation, la légalité.
Et donc, on voit, en fait, un groupe d'hommes autour de ce Peter Thiel, qui est de plus en plus l'espèce de Dark Vador de cet univers.
C'est une belle métaphore.
Et donc, c'est la bande de Palantir, PayPal.
Oui, évidemment, il y a la PayPal Mafia qui est assez conquise à ces idées-là. Hein. C'est des libertariens
convaincus. Dont Elon Musk. Dont Elon Musk.
Alors, ouais. Je dirais même plus que des libertariens, c'est des paléo-libertariens, ce qui est un peu effrayant. C'est-à-dire que c'est un mélange de libertarianisme avec, finalement, une vision très réactionnaire de la société. Donc évidemment, il représente aujourd'hui cette sorte d'élite en fait, qui a tout intérêt à elle, hein, effectivement, à continuer ses activités, à les développer indépendamment des États-nations. Enfin, il y a vraiment une idéologie, j'allais dire un peu délétère derrière tout ça. C'est celle de l'anarcho-capitalisme, hein, c'est-à-dire un capitalisme sauvage, hein, qui profiterait évidemment à ceux qui sont déjà bien placés, parce que là on parle évidemment d'hommes, j'ai envie de dire, d'hommes blancs, avec du capital culturel, du capital économique, qui revendiquent une sorte aussi de méritocratie planétaire, dont finalement les crypto-monnaies pourraient apporter vraiment leur concours en fait.
Et donc, ils ont été jusqu'à créer une île, enfin une espèce de paradis insulaire au large du Honduras.
Tout à fait. Alors ça, c'est un projet, c'est des zones économiques spéciales qui se sont développées dans le prolongement finalement de Hong Kong, Dubaï, etc. Mais j'ai envie de dire, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est les zones économiques spéciales du capitalisme 2.0, du capitalisme digital. Et effectivement, en Honduras, c'est un projet qui a été en arrière-plan, qui est notamment financé par Peter Thiel ou Patrick Friedman. Le petit-fils de Milton Friedman.
Il y a
une filiation intéressante. Et le fils de Milton Friedman, c'est David Friedman, qui est un grand théoricien de l'anarcho-capitalisme. Donc ça, c'est intéressant de voir. C'est une trajectoire du néolibéralisme dont on est en train de parler aussi. Je pense qu'il y a un livre extrêmement intéressant qui est paru il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Crack Up Capitalism, qui a été traduit récemment, le capitalisme de l'apocalypse de Quinn Sobodian, qui met le doigt là-dessus, c'est-à-dire il y a une tendance dans le néolibéralisme contemporain à vraiment vouloir faire sécession avec les États-nations. Et finalement, ça rentre dans ce cadre-là aussi, les crypto-monnaies. Hein. En tout cas, elles concourent à ce rêve de sécession des États-nations. Et Prospera, qui est une ville-État, une charter city, comme l'appellent les Américains, en est un exemple, effectivement, une illustration frappante.
Natasha Valla, ce qui est sidérant, c'est que donc le président des États-Unis a décidé que son pays devait devenir la patrie des cryptos, alors qu'en lors de son premier mandat, en 2021, il criait à l'arnaque en disant les cryptos, etc. Et là, en 2025, il annonce donc ce Fornox numérique. Il organise un premier sommet des actifs numériques à la Maison Blanche, sous le portrait d'Abraham Lincoln, qui a dû quand même se demander ce qui se passait. Comment expliquer cette fascination et ce revirement institutionnel de la part des États-Unis?
Alors, c'est un paradoxe apparent pour un président, le président d'un État démocratique avec un ordre constitutionnel. Le dit ordre constitutionnel, dans la plupart de nos démocraties, délègue à une institution qui est la Banque centrale le pouvoir de battre monnaie. Et je pense qu'il faut remonter là pour mettre en perspective les décisions de Donald Trump en la matière. Quand on donne le pouvoir de battre monnaie à la Banque centrale, on le fait sur la base d'un élément essentiel qui est la confiance dans la valeur que la Banque centrale va être capable de préserver pour la monnaie qui est la fonction d'émission. Alors, il faut dire en passant que ce faisant, la Banque centrale met un gros paquet dans sa poche, donc dans les poches de l'État, et c'est le revenu de seigneuriage qui vient du fait que quand on imprime un dollar ou quand on émet un dollar digital, c'est deus ex machina et ça sort de rien. Donc, ce petit pécule, évidemment, ça a fait briller des étincelles dans les yeux de plein de gens qui ont d'excellentes idées par ailleurs dans la finance. Alors, ça a donné lieu aux cryptos qui sont, pour moi, c'est un blessing pour la finance parce que ça met
une bénédiction
parce que ça met au centre des questions monétaires des évolutions technologiques majeures qui n'ont rien à voir, alors qui sont constitutives des cryptos, mais qui peuvent être pensées indépendamment des cryptos, et ça c'est essentiel de le comprendre quand on parle de blockchain et quand on parle de DLT, donc des registres décentralisés, là je pense qu'il y a beaucoup plus d'expertise autour de la table. On parle d'éléments qui sont des progrès absolument phénoménaux, mais ces progrès absolument phénoménaux, il n'y a rien qui, consensuellement, doit les attacher à des cryptoactifs. Les banques centrales peuvent très bien faire de la blockchain et peuvent très bien faire utiliser toutes ces technologies. D'ailleurs, elles s'y attellent aujourd'hui.
Mais s'agissant encore une fois de cette décision de la Maison Blanche qui remonte au début du mois de mars, donc là, en fait, ce qui a choqué, semble-t-il, le monde de la crypto. Et le Bitcoin en particulier a aussitôt baissé, ce qui est paradoxal, la valeur du Bitcoin a aussitôt baissé, je crois, d'un quart. C'est que ce nouveau fonds n'a pas acheté de crypto, mais il a rassemblé des actifs numériques confisqués par la justice pour différentes raisons. Mais on a vu donc Donald Trump et Madame Trump lancer ce qu'on appelle des mèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que des mèmes, Natacha?
Je pense qu'il y a des compétences bien meilleures que les miennes. Je veux revenir sur... Alors, je reviendrai sur le mème après, mais...
Alors, attendez, le mème, oui. Claire, c'est quoi un mème?
Alors, techniquement parlant, c'est comme une crypto-monnaie, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de réel projet derrière.
C'est-à-dire donc, c'est attaché à une figure, à un personnage, à du people.
C'est comme un point de fidélité Donald Trump. C'est juste ça. Alors, faut le voir comme ça. C'est un pins, quoi.
Donc, un pin qui a une certaine valeur.
Qui a une valeur que les gens
donc
s'échangent.
Donc, ça monte.
Exactement.
Parce qu'il y a une viralité, quoi.
Il y a une viralité en ligne. Il y a une communauté qui se forme autour de ça parce qu'il y a des fans de Donald Trump qui l'achètent comme ils achèteraient un point de fidélité Trump.
Et donc, il semblerait que ça a rapporté quand même 350 millions de dollars personne en question.
Bien sûr. Mais lui,
s'écroule.
Mais Donald Trump, c'est le roi du merchandising. Donc, il vend des casquettes, il vend des t-shirts, il vend des cryptos. Voilà, un actif de plus parmi ce qu'il vend.
Et de fait, le fait que c'est même, quels qu'ils soient, les Trump, les Melania, ils font partie de l'univers des cryptos. Et le paradoxe pour lui, c'est qu'il est quand même censé être garant de l'ordre constitutionnel. Et il est favorable à un dollar qui est quand même aujourd'hui la monnaie dominante dans le monde, sur le système monétaire international. Le dollar lui permet de faire financer par le monde entier les dépenses des consommateurs américains. Or, il met en face de ça, et c'est un paradoxe auquel il n'est pas capable de répondre aujourd'hui, et je pense que ça va générer des problèmes très rapidement et qui vont résoudre la question assez rapidement aussi, c'est qu'en face de ça, il va dire... Pour stocker de la richesse et pour avoir confiance dans la valeur de cette richesse que je stocke, je vais inventer
un truc qui s'avère être un crypto, mais qui pourrait être complètement autre chose, pour ensuite, effectivement, donner lieu à des phénomènes de spéculation vraiment très clairement.
Et alors, à la tête de l'autorité des marchés financiers, donc la fameuse et redoutable SEC, il a mis Paul Atkins, qui lui est un militant des cryptos, et qui a aussitôt enclenché l'abandon de poursuites judiciaires qui avaient été déclenchées, c'est le cas de le dire, contre un certain nombre d'acteurs de cet univers. François Volpout, vous dirigez Chain Analysis, qui est donc une entreprise privée américaine, et dont le rôle est en fait d'enquêter, de vérifier... quoi ? L'honnêteté, la légitimité, à la fois des acteurs et des transactions qui laissent une trace numérique par définition, en quelque sorte.
Je pense qu'il est important, enfin, pour comprendre ce que fait Chainalysis, c'est de voir les deux problématiques qu'on couvre, en tout cas qu'on adresse. Et il y a deux problématiques ou deux phénomènes sur lesquels on doit travailler. Un pour l'entreprise du monde privé et l'autre pour les gouvernements ou les différentes agences. Le monde privé, que ce soit les institutions financières, les banques crypto, qu'on appelle aussi les exchanges, ou tous les crypto-natifs, donc ceux qui font de l'innovation autour des blockchains, notamment pas que de la crypto, mais autour des blockchains.
Alors blockchain, attendez, c'est quoi un blockchain déjà ? Parce que le vocabulaire...
Blockchain, c'est une technologie, alors après, peut-être que David...
Pour le dire peut-être simplement... Déjà, moi je pense qu'il y a un problème dans la formulation même de blockchain. Il n'y a pas une blockchain, c'est un protocole en fait. C'est un ensemble de règles cryptographiques.
Donc c'est un protocole qui permet, numérique.
En fait, voilà, de stocker des données de manière totalement fiable. C'est un registre en fait.
Ok, si donc on a compris, c'est un registre.
Donc ce et registre,
donc, François Volpout.
Cette technologie qui permet de multiples cas d'usage, en tout cas pour l'industrie du monde privé, amène une contrainte. La contrainte, c'est la contrainte réglementaire. Et finalement, pour des sociétés notamment opérant en France, notamment en France ou en Europe, elles doivent se soumettre ou en tout cas faire preuve de connaissances par rapport aux réglementations et aux règles de conformité des juridictions dans lesquelles elles opèrent. Et notamment dans notre région, on a, et même j'allais dire à l'échelle mondiale, on doit lutter notamment contre le financement du terrorisme et contre le blanchiment d'argent. Et donc ces sociétés privées, quand elles opèrent sur les marchés crypto, les marchés crypto, doivent répondre aux régulateurs et aux différentes autorités sur la probité de leurs transactions. Donc on va les aider, on va leur fournir des données, des outils, et aussi de la ressource, de la connaissance, pour pouvoir répondre à leurs obligations réglementaires. S'assurer de la probité des transactions qu'elles reçoivent ou qu'elles émettent. S'assurer de la probité, j'allais dire, ou de leur connaissance potentielle des activités illicites qui pourraient être générées par leurs utilisateurs. Ça, ce sont les entreprises du monde privé. Dans l'autre, j'allais dire, dans l'autre pan de l'activité de Chainalysis, on aide aussi les gouvernements et les différentes agences composant ces gouvernements sur plusieurs aspects. Certaines sont, ont pour mission d'enquêter suite à une malversation, une activité illicite qui peut avoir trait à des rançongiciels, à des vols de crypto-monnaies, à du blanchiment d'argent, la drogue...
Parce que c'est ça qui est absolument saisissant, c'est le nombre de scandales qui émaillent l'histoire des cryptos depuis une vingtaine d'années. L'effondrement de FTX. Donc ça c'est le fameux Friedman. Fried, voilà, ça c'était en 2022, le crash de Terra Luna, en février de cette année, des hackers de Corée du Nord ont volé $1,5 milliard de dollars, donc d'une monnaie qui s'appelle Ether, ouais. C'est ça, qui est la deuxième monnaie la plus valorisée après le Bitcoin.
Pas qu'une monnaie.
Et alors, ce qu'on a appris aussi, ce qui est quand même absolument sidérant, pour en revenir à ce qui se passe quand même aux États-Unis, c'est qu'il est question d'un pardon présidentiel pour un personnage dont le nom se résume à ses initiales, CZ, donc une opération qui s'appelle Binance.
Bon, de marché.
La plus grosse plateforme d'échange.
Oui.
Voilà, donc accusé de blanchiment et de violation des sanctions imposées par les États-Unis à un certain nombre de pays, j'imagine. Et alors, il est question d'un pardon présidentiel parce que les trois fils Trump ont créé une société familiale, une entreprise crypto, avec d'ailleurs le fils de Monsieur Witkoff, qui est l'envoyé spécial à tout faire de Donald Trump, que ce soit pour l'Ukraine ou pour Gaza. Bref, le fils Witkoff. Et donc, contre la participation, et c'est à vous évidemment que je pose cette question, François Volpout, comment peut-on imaginer... Enfin, il n'y a pas des histoires de conflits d'intérêts dans tout ça
Là, je pense, on est au cœur même du conflit d'intérêts. Après, je pense que l'élection de Donald Trump et surtout le personnage a ouvert un nouveau pan de l'histoire et de la libération, d'un certain type d'agressivité. Je le noterai comme ça. Et même dans l'économie crypto, ça peut être qualifié comme ça. Néanmoins, on est dans un effet de balancier. On était dans un environnement, la SEC, donc la SEC, auparavant était extrêmement agressive vis-à-vis des acteurs crypto et quelquefois à outrance, quelquefois. Et là, en fait, l'élection de Donald Trump,
c'est
le balancier inverse. Et où, finalement, on ouvre la boîte de Pandore, ou je ne sais pas si c'est la boîte de Pandore, mais on ouvre une capacité sans limite. Jusqu'à, sur ces 6 premières semaines, comme vous le disiez, en tout cas, une capacité sans limite, une accélération, on peut dire, de potentiel conflit d'intérêts dont vous venez de faire état. Et notamment le lancement du Trump ou du Melania, ces mêmes coins, qui ont un autre nom beaucoup plus vulgaire dans l'écosystème crypto, démontrent que...
C'est quoi le nom le plus vulgaire? Enfin, on n'est jamais que samedi matin.
Donc... Je crois que c'est le shitcoin. Hein,
le shitcoin, c'est pas mal.
Moi, ça dit ce que ça dit. Hein.
Natacha Valla.
En réalité, c'est vrai que ce qui a été dit tout à l'heure est important. En Europe, on a des réglementations européennes qui nous protègent. Vous ne les avez pas nommées, mais si vous entendez parler de MiCA ou de DORA, ce sont des objets quand même assez bienveillants qui permettent d'avoir une diffusion de l'information, une transparence. Mais moi, ce que ça m'inspire, cette discussion, c'est... Qu'est-ce que tout cela nous a apporté? C'est-à-dire, le monde avant crypto, était...
Manifestement, ni vous ni moi n'investissons en crypto.
Non, mais alors, justement,
mais peut-être
je pense
il faut
quand même expliquer que pour les ménages français qui voudraient investir, et de nombreux ménages investissent en crypto, et bien leur en face, il faut qu'ils sachent à quoi ils s'exposent. Quand on achète une action... On achète un titre de propriété sur une entreprise, sur une entité. Bref, on est propriétaire de quelque chose qui peut très bien ne plus rien valoir demain, mais en tout cas, il y a ça derrière. Quand on achète un titre de dette, une obligation, les particuliers peuvent pas vraiment y accéder parce que les montants sont gros, mais ils peuvent acheter des petits morceaux d'obligations émises par l'Allemagne, émises par une banque ou par une entité industrielle. Vous avez un titre de créance, vous avez une créance sur cette entité. Alors vous allez me dire, effectivement, si cette entité va mal, on peut revenir sur l'idée de la créance et puis ne pas honorer ses dettes. Mais enfin, le mécanisme est bien perçu, et tous ces éléments, cette diversification et cette innovation financière, elle a servi à quelque chose. Maintenant, le crypto, moi j'ai l'impression qu'il s'est défini par défaut par rapport à des manques de la part des banques centrales. Les banques centrales n'étaient pas assez technologiques, on ne pouvait pas payer en euros directement. Quoique, enfin, je peux argumenter aussi dans le sens inverse, mais l'autre argument c'est de dire on ne peut pas interconnecter les monnaies les unes avec les autres. On se rend compte aujourd'hui que, par exemple, vous parliez de Trump tout à l'heure, les banques centrales se sont coordonnées pour lancer un projet qui s'appelle Enbridge, coordonné par la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale, les banques centrales, pour interconnecter les monnaies, le dollar, l'euro, enfin, c'était pas le dollar et l'euro, mais enfin, des monnaies différentes les unes des autres, sur un réseau qui, in fine, sera un réseau digital, qui, in fine, sera sur la blockchain et aura sans doute des propriétés très similaires, sauf qu'elles seront ancré sur un système de confiance qu'il y a une monnaie fiduciaire émise par un souverain.
Mais donc, cela veut dire que la technologie gagne en quelque sorte ou impose cette forme-là d'adaptation.
Elle impose la forme de la monnaie, mais bien sûr, mais ça a été le cas depuis les coquillages jusqu'aux billets, aux pièces, aux dépôts bancaires. C'est le sens de l'histoire.
Après, je pense que ce qui est important de signifier aussi, c'est qu'effectivement, Bon, moi, par exemple, je me suis beaucoup intéressé aux origines idéologiques. Donc, c'est assez clair. Voilà, il y a un côté narco-capitaliste. Il y avait un projet qui avait déjà été esquissé par Friedrich Hayek de dénationalisation des monnaies.
Donc, Hayek, qui est le
chantre du néolibéralisme,
autrichien,
je veux dire, voilà, oui. Expatrié aux États-Unis, qui est un des grands, j'allais dire, idéologue du mouvement néolibéral et qui promouvait déjà un projet sérieux de dénationalisation des monnaies, hein, parce que Hayek, c'est pas Trump, en l'occurrence, en termes d'analyse économique, mais. Ça, c'est OK, c'est les idéologies qui poussent une technologie, mais on le sait très bien, une technologie, faut clairement différencier l'invention, l'innovation. L'invention, il y a des idées derrière. L'innovation, c'est quand ça pénètre dans la société. Et on voit bien ici la variété des contextes d'usage, la variété des contextes culturels. Aux États-Unis, en France, les cryptos, ça veut pas du tout dire la même chose, parce qu'on n'a pas la même représentation du monde aussi, hein, tout simplement, parce que l'idée de décentralisation, elle innerve finalement la culture américaine, alors que la nôtre, si je prends le cas de la France, on est innervé par une culture de la centralisation. Donc, tout ça donne des nuances, en fait, assez incroyables par rapport au projet initial de ce qu'étaient les crypto-monnaies ou la blockchain en général.
Claire Balvar, je rappelle que vous êtes une praticienne des activités crypto avec une néobanque. Ce qu'on voit, c'est quand même une forme d'hybridation, c'est-à-dire que les grandes institutions financières, BlackRock, par exemple, le géant américain, si j'ai bien compris, émet des bitcoins ou,
non, il propose un fonds en bitcoin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des bitcoins via ce qu'on appelle des ETF, donc des produits financiers classiques aux États-Unis qui sont très utilisés. Et donc effectivement, il y a une hybridation puisque la finance traditionnelle a compris qu'il y avait une demande d'investissement ou d'utilisation des cryptos, donc c'est adapté. Mais moi, je voulais revenir sur des propos que j'ai entendus tout à l'heure sur justement à quoi ça nous sert tout ça et pourquoi est-ce que les cryptos sont là. Et moi, la première réponse qui m'est venue en entendant cette question, c'est la première chose que ça nous apporte, c'est une réflexion sur ce qu'est la monnaie. En fait, derrière Bitcoin, qui est quand même la première des crypto-monnaies, il y avait cette envie de créer une monnaie d'Internet qui soit indépendante des institutions privées comme publiques et qui permette à tout un chacun de posséder réellement son argent numérique. Les euros qu'on possède, vous et moi, en fait, techniquement parlant,
le contrôler.
Ce sont des zéros et des uns dans les serveurs d'une banque. Je caricature, mais c'est quand même un peu ça. Et si on veut posséder son argent soi-même, la seule solution qu'on a avec l'euro ou avec le dollar, c'est de retirer du cash. Voilà, c'est d'avoir des billets. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui, techniquement, détenir son argent numérique soi-même, sauf avec les crypto-monnaies. Quand on veut envoyer
mais
de l'argent...
Qu'on ne touche pas, par définition.
On ne les touche
c'est
pas.
C'est virtuel.
Non, bien sûr, on ne les touche pas, mais non. On peut avoir un portefeuille qu'on est le seul à détenir sur Internet. Ça peut être un portefeuille physique sous forme de clé USB. Donc, il y a vraiment une innovation technologique et un changement de paradigme par rapport à nos monnaies traditionnelles. Si vous voulez envoyer de l'argent classique, euros, dollars ou autres, à l'autre bout de la planète, vous allez passer par un certain nombre d'intermédiaires qui vont d'ailleurs souvent prendre des frais. Les cryptos, et notamment Bitcoin, de par son aspect mondial, vous permettent de le faire plus rapidement et à moindre coût. Et donc cette innovation-là aussi, elle a du sens et elle permet de rendre les paiements internationaux beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides.
Si je peux préciser,
oui, juste, David Pucheux.
Parce que c'est très intéressant ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut aider les auditeurs à bien comprendre. Le projet initial, effectivement, c'est digital cash. Donc c'est une forme d'argent liquide digital, puisque l'argent liquide, on le contrôle. Et c'est intéressant parce que ça émerge dans les années 90, parce que dès les années 80, qu'est-ce qui se profile? C'est la cashless society. C'est l'idée qu'on va être surveillé par les institutions bancaires, que des tiers vont prendre le contrôle.
Et puis là-dessus, il y a eu les subprimes, donc 2007-2008.
C'est pas pour rien que Satoshi Nakamoto le sort en
2008. Et après le Covid, le confinement. Donc ça aussi, ça a accéléré.
Évidemment, et puis la méfiance vis-à-vis des États, de l'institution bancaire, du système financier, tout ça concourt. C'est pas un hasard si c'est sorti en 2008. Hein, le livre blanc du Bitcoin, la première phrase, c'est ça parle de la crise en disant on peut plus avoir confiance dans le système bancaire. Donc ça, c'est très intéressant de dire effectivement cette idée de contrôler son propre argent. Maintenant, effectivement, on le voit dans la variété des contextes. C'est-à-dire, il y a des contextes, je pense que là, il y a des gens très bien placés pour savoir toutes les dérives inhérentes à ce type de choses. Mais par exemple, sur les transactions, c'est intéressant. Sur les transactions internationales, typiquement, je veux dire, dans les pays du Sud, dans les diasporas, ça représente aujourd'hui un enjeu vraiment important, intéressant, parce que effectivement, ça peut réduire littéralement les coûts de transaction permettent aux gens de mieux contrôler leurs transactions. C'est toujours pareil. Je veux dire, ça peut avoir des vertus dans un régime autoritaire tout à fait intéressantes, là où dans un régime démocratique, ça peut avoir au contraire des vertus délétères.
Oui, parce que quand on voit la liste des États détiennent des crypto-monnaies, le Bhoutan, par exemple, en principe le pays où on est le plus heureux au monde. Donc là, j'ai vu que 30% du PIB du Bhoutan est en crypto. François Volpou, qu'est-ce que cela veut dire? Le Salvador aussi, le...
Ils ont abandonné.
Ils ont abandonné, mais ils voulaient faire l'État crypto...
Forcé à abandonner, peut-être.
Oui, c'est le FMI qui a...
Et donc, le plus grand pays, enfin, en termes de volume, le plus gros pays crypto, ce sont bien les États-Unis, et en deux, c'est la Chine.
Mm-hmm. En fait, je pense qu'il est important de faire la dichotomie entre ceux qui possèdent des cryptos et ceux qui l'utilisent. Mmh. Et c'est là où on est encore dans deux... Il faut bien voir l'aspect spéculatif ou l'aspect réserve.
Mais, oui, mais c'est quand même fait.
Et l'aspect usage. Oui. Mais vous avez des pays dans lesquels l'utilisation de la crypto est une nécessité face à l'inflation.
Bien sûr.
On prend un pays, l'un des plus grands pays aujourd'hui utilisateurs, donc l'usage des cryptos, c'est le Nigeria. À l'heure actuelle. Si on regarde nos données, le Crypto Crime Report de cette année, donc qui sont des données données par Chainalysis ou l'adoption, ou d'autres rapports sur l'adoption des cryptos, montrent qu'on a certains pays dans lesquels il y a une nécessité d'usage.
Bien
et
sûr.
Aujourd'hui, nous, quand on. Et que ce soit nous, Français, ou beaucoup d'Européens ou d'habitants de la partie, j'allais dire, développée du monde, on a accès à une agence bancaire, on
Bien
a
sûr.
Accès à tout d'une manière simple. Ouais. Dans certains pays, on a accès à un téléphone, mais pas à une agence bancaire.
Ouais.
Et finalement, donner l'accès, le contrôle de la richesse sans y mettre de valeur, je ne mets pas de Bien valeur sûr. Derrière ouais. la richesse, mais simplement une capacité à avoir des échanges, à réaliser des échanges, elle doit passer au travers des cryptos. Et ce que disait Claire sur le paiement transfrontalier, etc., l'immédiateté à moindre coût, c'est une réalité, mais aussi cette capacité des gens à avoir un accès à la richesse.
Mmh.
Et dans certains pays où l'inflation, on parle de l'Inde, on parle du Nigeria, on peut parler de beaucoup de pays dans lesquels les monnaies ont perdu une valeur et de facto la population s'est appauvrie, aujourd'hui, les crypto-monnaies, et notamment le bitcoin, sont une réponse aussi à cette capacité à conserver une valeur sur sa richesse.
Mais cela veut dire aussi, François Volpout, que c'est un canal, si j'ose dire, extrêmement commode pour blanchir de l'argent, pour se livrer à toutes sortes d'activités criminelles, les réseaux de drogue, de traite de personnes, enfin tout ce qui alimente, et en particulier dans le dark web, donc dans cette dimension du web qui est très très difficile à pénétrer par définition, les cryptos c'est quand même l'idéal pour toutes les activités criminelles.
J'allais dire, à l'instar de toutes les nouvelles technologies,
oui.
Si on regarde le lancement du mobile, du portable et de ces différentes déclinaisons, elles ont été adaptées. Ces innovations sont souvent adoptées par les acteurs illicites. Il y a une tendance.
Oui. C'est eux qui accélèrent en quelque sorte le...
Ils accélèrent l'adoption, ils accélèrent la nécessité de réaction, ils accélèrent un petit peu tout aussi.
L'innovation.
Mais il est important, je pense, de remettre en exergue deux chiffres qui, moi, sont critiques pour la compréhension de tout à chacun de l'écosystème crypto. L'activité illicite en 2024 sur les crypto-monnaies représente 0,14% du volume global d'échanges en crypto-monnaie.
Mais comment arrive-t-on à ce chiffre?
Lui, il peut y arriver.
Aujourd'hui, le travail de Chainalysis est effectivement d'identifier les acteurs illicites. On pourra revenir sur ce qu'on fait exactement, mais d'identifier les acteurs illicites et de pouvoir rattacher des transactions et cartographier des transactions et les rattacher à des entités du monde réel. On ne suit pas l'individu. On suit des entités du monde réel. Et aujourd'hui,
entités du monde réel, c'est-à-dire
C'est-à-dire, on peut avoir une organisation, vous parliez tout à l'heure des Nord-Coréens qui sont aujourd'hui les plus grands attaquants de la finance décentralisée. Ils font voler des crypto-monnaies, de l'argent, en tout cas numérique, sur la finance décentralisée. Et aujourd'hui, une société comme Chainalysis a la capacité, par notre travail, à pouvoir identifier les portefeuilles numérique, donc les portefeuilles crypto appartenant à une entité du monde réel. Donc, on est capable...
Donc, vous êtes capable de dire, ça, c'est Pyongyang.
Potentiellement. Tout à fait. Ouais. Et sur certains cas, c'est vraiment un objectif. Et juste, je revenais, en fait, le 0,14% représente à peu près, représente 40,9 milliards de dollars à l'heure où je vous parle. Parce que le monde crypto, les transactions crypto, comme on le parlait tout à l'heure, elles sont immuables. Donc, une transaction qui a lieu cette année, l'année dernière, il y a 3-4 ans, peut s'avérer problématique, on peut le découvrir a posteriori. Mais à l'instant où on se parle, 0,14% des échanges en crypto en 2024 ont été faits, ou en tout cas sont issus d'activités illicites. Si on regarde et si on fait un pendant par rapport aux monnaies traditionnelles, que l'écosystème crypto appelle fiat, en 2023, c'était 3% du PIB mondial. 2129 milliards de dollars de blanchiment d'argent.
Donc, vous voulez dire, en fait, il vaut mieux que les criminels utilisent des cryptos plutôt que les systèmes traditionnels.
Force est de constater que la transparence inhérente à la technologie blockchain est une vraie force pour les forces de l'ordre, pour tout le monde, pour traquer l'activité illicite à partir du moment où ils ont capacité à cartographier, identifier les acteurs illicites. Et ça, c'est le travail de Chainalysis.
Mais donc, ça veut dire que, on le sait dans le monde réel, si j'ose dire, la criminalité a toujours une longueur d'avance. Mmh. Et donc, c'est aussi vrai en termes technologiques. On peut imaginer que c'est véritablement dans le dark web qu'il y a les innovations technologiques les plus fulgurantes.
Mais vous avez parfaitement raison. Et c'est un travail éreintant de suivre l'avancée technologique et les nouveaux usages. Mmh. Mais après, c'est une nécessité. Enfin, les acteurs illicites utilisent des technologies complexes ou des programmes de blanchiment extrêmement complexes et qui nécessitent un travail de nos équipes chez Chainalysis constant pour s'adapter aussi aux nouveaux schémas techniques extrêmement évolués utilisés par les acteurs illicites, et ce, de manière à rassurer le public et les utilisateurs de Dbloc ou de n'importe quelle innovation ou innovant, à l'instar de Dbloc, les utilisateurs doivent être aussi rassurés. Et ça, malgré tout, ça fait ou ça nécessite pour des acteurs comme nous un travail constant sur l'adaptabilité ou l'adaptation au nouveau.
Enfin, on ne va pas vous plaindre, c'est un marché, on le comprend, en plein essor. Moi, j'ai une question pour David Pucheux. Qu'est-ce qu'on appelle une ferme de minage ?
Alors, une ferme de minage, alors peut-être juste avant, je voulais préciser, on en parlait ensemble sur ce plateau tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est assez aguerri à tout ça, mais je pense que pour les auditeurs, il y a 2-3 choses à préciser.
Oui, plus que 2-3, sans doute.
Voilà, plus que 2-3, mais très simplement, par rapport à ce qui a été dit, qui est très intéressant, je ne connaissais pas ces chiffres, et c'est très très intéressant de les entendre, c'est qu'effectivement, la blockchain, c'est un registre, comme je le disais, mais c'est un registre qui est public. Donc, on voit. Mais les entités qui échangent des crypto-monnaies le font à titre anonyme, en tout cas avec ce qu'on appelle un pseudonyme, c'est-à-dire une identité cryptographique, qui n'est pas simplement un prête-nom, en fait, mais qui est une identité authentifiable numériquement. Donc, Satoshi Nakamoto, par exemple, qui a inventé le Bitcoin, en fait, on ne sait pas qui c'est derrière. Par contre, on sait que c'est Satoshi Nakamoto, cette entité-là, qui s'exprime à chaque fois qu'elle s'exprime. Ça peut être un individu, une femme, un homme, un japonais, un américain.
Ou un groupe
d'individus. Ouais. Donc, effectivement, le travail de Chainalysis, c'est d'essayer de lier tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est là où la blockchain effectivement crée une tension, c'est-à-dire que les gens sont assez tranquilles quand on les a pas repérés, mais une fois qu'ils sont repérés, on peut redescendre sur toute la chaîne, hein, si je ne me trompe pas, des transactions. Hein, c'est-à-dire, ça dévoile, parce que comme cette blockchain est publique, hein, donc on voit les transactions qui étaient faites par les entités cryptographiques, si on relie une entité cryptographique à un individu, un groupe d'individus, en fait, on peut remonter sur...
Mais c'est là où on doit faire une vraie nuance, si je puis me permettre, entre suivre un individu et suivre une entité du monde réel ou des acteurs illicites. Chez Chainalysis, on ne suit pas l'individu. L'activité licite sur les blockchains, c'est pas notre métier. On ne suit pas l'activité licite. Le cœur de l'action de Chainalysis, et c'est pour ça, je me permets de rebondir et de faire un parallèle. On se plaint souvent des règles sur la route, etc. C'est vrai. Mais on s'en plaint souvent quand on les enfreint.
Bien sûr.
Et je fais peut-être partie de cela aussi de temps à autre. Hein. Je ne jette la pierre à personne. Mais finalement, les acteurs crypto qui se plaignent de cette capacité à identifier l'acteur illicite, à un moment donné, est-ce que la crypto, est-ce que l'écosystème, bien qu'il soit pseudonyme ou qu'il donne un certain niveau d'anonymisation, et on parle plus de pseudonyme, doit être la porte ouverte à tout type d'activité. Et c'est là où moi, je me pose réellement la question. C'est pas parce qu'on est pseudonyme ou anonyme que c'est la porte ouverte et qu'on est, on doit être en capacité de faire n'importe quelle activité illicite à travers la planète, quoi.
Alors, Claire Balva, ce que on comprend donc cette espèce d'accélération technologique. Je reviens à ma question. Une ferme de minage, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les mineurs, ce sont des acteurs qui ont vocation à sécuriser les réseaux de crypto-monnaies et en particulier le réseau Bitcoin. On disait tout à l'heure, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque centrale du Bitcoin. Néanmoins, il faut bien des gens pour s'en occuper de cette infrastructure. Et donc, les mineurs, ils ont ce rôle de valider les nouvelles transactions qui sont effectuées en Bitcoin et de sécuriser le réseau pour que n'importe qui ne puisse pas arriver demain et faire une transaction en s'attribuant 10 Bitcoins alors qu'il arrive de nulle part et qu'il les a jamais gagnés.
Et c'est de plus en plus concentré. Donc, on comprend que une énorme entité en Chine qui s'appelle Antpool et une énorme aux États-Unis qui s'appelle Foundry.
Alors, il y a le minage en Chine a quand même plutôt décru depuis un certain nombre d'années. Mais effectivement, au début de Bitcoin, ce qui se passait, c'est que les mineurs, c'était des gens comme vous et moi. C'était des gens qui faisaient tourner une carte graphique à la maison. Et en gros, pour être mineur, il faut brancher un ordinateur et lui faire faire des calculs de manière automatique. Donc, ça consomme de l'électricité. Et on participe comme ça à la sécurisation du réseau et on est récompensé en Bitcoin. Et donc, ces gens qui, au début, étaient des particuliers sont petit à petit devenus des professionnels. Et aujourd'hui, c'est une activité sur laquelle il y a des entreprises et des groupes d'entreprises.
Et de plus en plus énormes.
De plus en plus gros. Mais il faut bien comprendre quand même qu'il y a une sorte d'incitation économique générale à ne pas dépasser une certaine proportion. Parce qu'en fait, si vous devenez un mineur qui prend, par exemple, 50% de la puissance de calcul totale du réseau, en fait, c'est un très mauvais signal pour les acteurs parce que les gens vont se dire « Ah mais attends, Bitcoin, ça devient très concentré en fait. C'était censé être une monnaie décentralisée, etc. » Mais en fait, il y a cet acteur-là qui a un pouvoir démesuré sur Bitcoin. Donc ça, c'est arrivé une fois, par exemple, qu'un mineur prenne plus de 50% de la puissance de calcul. Et très vite, ils se sont rendus compte du signal qu'ils donnaient au réseau et en fait, ça risquait de faire chuter aussi le prix du Bitcoin, ce qui ne les arrange pas du tout. Et donc, ils ont débranché des serveurs pour réduire en fait leur proportion. Donc il y a une sorte d'incitation économique quand même à ce que ça reste un minimum décentralisé.
Ce qu'il faut dire, David, peut-être Boucheux, juste rajouter une chose sur le minage. Donc c'est effectivement, par ailleurs, c'est un mécanisme incitatif, il y a des logiques de mécanisme incitatif parce que les gens font pas ça pour rien, évidemment, ils vont pas miner pour rien. Donc l'idée c'est le minage, c'est la métaphore en fait de la mine d'or, c'est-à-dire que c'est le seul moyen de créer des nouveaux bitcoins et dont vont être dépositaires ceux qui ont réussi à valider les transactions. Donc ça c'est un mécanisme d'incitation économique.
Alors, question extrêmement bête, en tout cas basique. Oui. Pourquoi est-ce que ça monte et pourquoi est-ce que ça descend ?
Le prix, vous voulez dire ?
La valeur d'un bitcoin.
C'est grosso modo comme les actions des entreprises. Et donc, c'est l'offre et la demande qui déterminent le prix.
Alors, pour les actions, il y a d'autres facteurs qui déterminent le prix de l'action.
Il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui sont
quand même assez fondamentaux, liés à la position de l'entreprise, à sa performance, à ses perspectives de cash flow futur, etc. Oui. Pour le mécanisme du marché Bitcoin, comme le marché d'actifs, enfin le marché de l'or, c'est un peu pareil finalement. Oui. Quoique l'or, il y a des demandes pour faire des bijoux, etc. Mais c'est qu'il y a des fluctuations dans l'offre et la demande. Alors, vous avez très bien expliqué qu'on va pouvoir réduire l'offre pour maintenir le prix. C'est une déviation du fonctionnement pur, de concurrence pure et parfaite du marché. Mais en tout cas, ces fluctuations, elles peuvent être absolument massives, vers le bas mais aussi vers le haut, ce qui crée des gains potentiels considérables, mais aussi des pertes potentielles considérables. Et ça, je pense que c'est un élément important, parce qu'on se rend compte, on discutait de l'anonymat derrière les cryptos, on discute de l'instabilité de la valeur des cryptos, et il y a des mécanismes qui sont mis en place et qui ont une grande valeur, justement, sur l'anonymat a des effets pervers. On va chercher à utiliser cette information lorsque le cas est indiqué, quand on sait que c'est une malversation. Quand la volatilité du cours d'une crypto est trop forte, eh bien, le système va inventer des nouveaux types de crypto, qui sont les stablecoins, qui sont quoi ? Rien d'autre qu'une crypto plus adossée à quoi ? Guess what ?
Au monde réel.
Au monde réel. Donc, il y a des obligations émises par l'Allemagne, des obligations... Enfin, bon, après, on peut imaginer tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui était revendiqué... Et encore une fois, je suis très agnostique par rapport à cette innovation qui me semble excellente pour faire progresser le monde de l'économie, de la monnaie et de la finance. Mais tous les mécanismes qui sont développés pour dépasser les limites des cryptos, ils nous ramènent finalement, entre guillemets, dans le monde d'avant. On crée de la transparence là où il était revendiqué qu'on n'en avait pas et que c'était l'avantage. On crée de la stabilité là où finalement on s'est rendu compte que la stabilité n'était pas inhérente. On indexe, certaines cryptos sont indexées sur des monnaies, des vieilles monnaies. Donc, dans le fond, il faut comprendre que, et je reviens aussi, j'en profite sur ce qui a été mentionné, et je pense que c'est une très très bonne remarque. Le fait que les pays qui ont une gestion macroéconomique déficiente, des gouvernements corrompus, des banques centrales qui ne sont pas indépendantes, qui ont des taux d'inflation...
Qui n'ont pas de tiers de confiance, en fait.
Perte de confiance, et voilà. Donc, c'est une punition par rapport à des institutions qui ne fonctionnent mal. Alors là, effectivement, c'est une chance d'avoir les cryptos. Avant, on avait le dollar et on indexait sur le dollar. Est-ce que ça fonctionnait moins bien?
On a toujours le dollar.
Oui. François Volpout.
En fait, je pense, et pour compléter, ou peut-être le prisme qui est un tout petit peu différent, je pense que les deux ne s'opposent pas. Et en fait, on est parti d'un postulat qui a été défendu par les uns et par les autres, mais le dogme porté par les uns et par les autres devient toujours problématique. Je pense que l'économie traditionnelle ne s'oppose pas, ou la crypto ne s'oppose pas aux monnaies fiduciaires traditionnelles, en fait. Et il y a une complémentarité, et il y a une nécessité, finalement, d'avoir une vision plus globale. Et chacun apportera, j'allais dire, ou continuera d'apporter...
J'irai même plus loin. Moi, je pense que la synthèse... Il y a un excellent livre là-dessus que je mentionne.
Natacha Valla.
Céline et Nadia Antonin, Les crypto-actifs. Ça, il faut le lire, il vient de sortir. C'est une petite bible. Je pense que le prochain marché des cryptos, c'est les monnaies de banque centrale. Les banques centrales sont en train de faire ce portefeuille dont vous disiez qu'il n'existait pas. Effectivement, il fallait les pousser. Moi, je me souviens, j'y étais, ça freinait des quatre fers. C'était insupportable.
À Francfort.
Il faut les pousser. Voilà. Donc, le fait d'avoir le jour où, et ça va se faire puisque les choses s'accélèrent, là, les États-Unis freinent parce qu'effectivement, c'est plus rentable de faire un Melania que d'aller taper à la porte de la Fed.
Oui, mais en tout cas... Oui. On ne voit pas Christine Lagarde faire un même...
Elle fera un euro numérique très stable, très fiable, très facile d'utilisation et qui vous procurera votre portefeuille digital qui vous manquait jusqu'à maintenant.
Claire Balva, est-ce que... On assiste manifestement à une accélération technologique qu'il s'agit d'essayer de comprendre, mais est-ce que c'est aussi un phénomène générationnel? Autrement dit, ça correspond à des aspirations qui touchent à la rapidité, à la facilité, au jeu. Enfin, ce côté génération Z, on est sans arrêt à tripoter son téléphone pour faire joujou.
Oui, alors on constate effectivement que les détenteurs crypto sont nettement plus jeunes que la moyenne. La moitié d'entre eux en France ont moins de 35 ans. Donc il y a un phénomène générationnel. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est là où Internet a libéralisé l'information. Donc, vous souvenez, avant, les médias étaient quand même beaucoup plus en silo qu'aujourd'hui, étaient bien définis. Aujourd'hui, n'importe qui peut écrire sur Internet, un blog, faire des vidéos, etc.
On peut d'ailleurs le regretter.
Voilà, avec les avantages et les inconvénients que ça amène, bien sûr. Et les cryptos libéralisent de la même manière la monnaie et la finance. Et donc, moi, ma conviction, c'est que demain, l'ensemble des actifs dans la finance traditionnelle circulera aussi dans le monde crypto. Et quant à l'euro digital, mais moi, j'espère qu'effectivement, on aura un euro qui sera très fort sous forme de crypto-monnaie et qui circulera de manière interopérable avec les portefeuilles de crypto, mais je ne suis pas sûre à l'heure actuelle que ce soit le choix technologique qui est privilégié par la Banque Centrale. Donc à voir, bien sûr.
David Pucheux. Oui,
juste pour compléter, enfin, je crois que la question générationnelle, elle est intéressante parce qu'effectivement, il y a vraiment une question générationnelle derrière tout ça. Il y a une vraie démocratisation, je ne sais pas si vous le dire comme ça, mais en tout cas une décentralisation de la finance qui est incroyable quand même. Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui des millions d'individus qui entre 18, s'ils sont pas plus jeunes d'ailleurs et qu'ils ont ouvert un portefeuille avec d'une carte d'identité d'un ami qui a 18 ans, qui jouent déjà en fait. Donc ça, évidemment, on en perçoit aujourd'hui les effets, mais à long terme, je veux dire, ça va être quand même un bouleversement assez majeur pour la finance en général. Ça, c'est une première réflexion. La deuxième, c'est la question de l'accélération. Je rebondis sur ce terme-là qui est important parce que c'est une idéologie qui anime beaucoup la Silicon Valley depuis maintenant une trentaine d'années, mais qui est une idéologie accélérationniste, hein, qui est l'idéologie revendiquée par, je sais pas, Balaji, Srinivasan, Marc Horowitz, enfin les grands investisseurs de la Silicon Valley, les penseurs, les crypto-économistes, etc., qui sont dans une dynamique aussi, alors là je pars sur un plan totalement idéologique, hein, mais qui accompagne le mouvement idéologique qui est celui aussi, j'allais dire, de l'extrême droite américaine, de l'alt-right, etc., une volonté par les crypto-monnaies, d'accélérer le capitalisme, ce qu'ils appellent le technocapitalisme. Alors, c'est lié aussi à une philosophie délétère d'un philosophe britannique qui s'appelle Nick Land, dont Musk se revendique assez ouvertement.
Oui, avec cette idée que l'idéal, c'est un CEO,
une sorte de régénération, de purification du capitalisme.
Voilà, parce que la démocratie ne sert à rien.
Oui, et le bout du truc, hein, je parlais de Prospera tout à l'heure, je ne l'ai pas expliqué, mais Prospera, c'est un archétype d'une société-État.
Donc Prospera, c'est donc ville. Au Honduras.
Voilà. Une zone économique spéciale,
oui.
Qui est dirigée finalement par un CEO, qui, dont l'unité de compte est le Bitcoin, qui est gouverné par token, hein, donc c'est-à-dire c'est calqué sur le
fonctionnement. Enfin, c'était le Club Med au départ.
C'est ça, ils ont des jetons de gouvernance, donc le vote est remplacé, si vous voulez, par la valeur monétaire, en fait, hein, des propriétaires, hein, c'est la propriété privée. Mais c'est aussi, ces gens sont animés par une idée que la liberté individuelle, nous on la définit pas comme ça en France, en général, mais les Américains, et surtout les anarcho-capitalistes ou les libertariens, pour eux, la liberté individuelle, c'est la propriété privée. Propriété privée matérielle, son corps, sa conscience, etc. Donc tout ça s'inscrit aussi, j'allais dire, idéologiquement dans cette mouvance dont on voit bien, hein, toute la dynamique anti-système qu'il y a autour des MAGA, de l'Amérique contemporaine, de Musk qui veut, là ils ont nommé à la tête du FBI que des gens finalement qui sont contre toutes les institutions fédérales, qui sont anti-système, donc c'est un paradoxe hallucinant. Enfin, c'est comme le Dodge, quoi, de Elon Musk.
D'ailleurs, Musk a créé une unité, enfin un Dogecoin.
Oui, on peut acheter des Tesla en Doge.
C'est pas lui qui l'a créé pour le coup, mais effectivement, il.
Qui est un peu d'ailleurs l'un des premiers.
Il a fait la promotion d'une certaine crypto-monnaie. Ouais. Ouais.
Donc, François Volpout, par rapport à tout cela, d'abord, ça veut dire que vous avez un business en pleine expansion, mais plus sérieusement, ça veut dire que les grands acteurs de la technologie, qui sont américains, mais aussi chinois. Comment est-ce que la compétition internationale s'inscrit, et les rivalités de puissance s'inscrivent dans l'univers crypto ?
Après, je laisserai les autres aussi avoir un commentaire sur ce sujet, mais je pense qu'il y a... Repartons de la base, la crypto. Elle est mondiale, sans frontières, intrinsèquement partagée par tout le monde. Donc la compétition, ou la compétition sur cet écosystème-là, il est de facto natif. Il n'y a pas de frontières. Enfin, la blockchain ne souffre pas les frontières. Donc, par essence même, c'est un business mondial. Le deuxième point, et qui est un point qui devrait nous permettre d'aller sur un point de régulation ou de réglementation, on est la vraie compétition. L'une des vraies compétitions peut se former autour de la réglementation des différentes juridictions sur lesquelles les business crypto opèrent. C'est-à-dire que plus une réglementation ou deux réglementations qui vont s'opposer complètement, aujourd'hui l'Europe et la France, hein, on a été moteur sur la réglementation autour des crypto-monnaies, des assets digitaux, notamment avec MiCA, DORA, même des réglementations un peu antérieures à cela, qui vont inspirer le monde. Elles vont vraiment... On a fait l'effort, on a une position de leadership sur la réglementation. Il faut
le savoir. Oui, mais on voit aussi, et David Pucheux vient de l'expliquer fort bien, qu'aux États-Unis, au contraire, on a affaire au sommet du pouvoir politique et financier et technologique à des gens qui sont contre la réglementation et qui d'ailleurs veulent
payer. D'où l'enjeu de la question de la souveraineté. Quoi.
La France et l'Europe qui a un cadre... Attention, hein, il ne faut pas aller dans la surréglementation. Hein, et c'est le risque aujourd'hui qu'on a en France, hein, la surréglementation.
En Europe.
Mais si, en France et en Europe. Oui. Et si on a une déréglementation complète dans des pays ou dans des zones, j'allais dire géographie type US, etc., imaginez un acteur français qui se monte avec sueur, j'allais dire, et force dans un écosystème crypto pour être conforme à la réglementation locale, qui est extrêmement contraignante, par rapport à un acteur où, lui, c'est la fête et il n'a aucune ou une réglementation extrêmement légère, c'est là où la compétition va être désavantagée. Là où on a une position de leadership, on peut se retrouver en retard à cause d'une surréglementation face à des pays dans lesquels...
Et complètement. Et le fait qu'on mette en place cette réglementation, et c'est pour ça qu'il faut, il faut pas interdire, il faut construire la réglementation intelligemment.
Co-construire
complètement avec les acteurs de technologie qui ont les compétences, qui voient les opportunités et qui voient aussi de façon très certaine les limites. Mais l'absence de réglementation, moi je pense que ça peut aussi signer l'arrêt de mort des cryptos. Pourquoi on met
la confiance dans les marchés aujourd'hui, elle est plutôt liée.
Pourquoi on met en place après 2008 une réglementation bancaire sans doute excessive? Parce qu'il y a eu un accident de stabilité financière, parce qu'il y a eu une récession massive liée à une crise financière qui a été très bien comprise, très bien théorisée. Les banques centrales ont injecté des masses extraordinaires de liquidités dont on hérite encore aujourd'hui. Donc tout ça, ça veut dire cette réglementation, il faut qu'elle soit suffisamment fine pour éviter ces risques extrêmes, mais ne pas réglementer, c'est prendre un maximum de risques et exposer les entreprises et les ménages américains en l'occurrence au pire des accidents qui pourraient advenir.
Et alors précisément, au niveau de la Banque Centrale Européenne, puisque tout cela remonte pour notre système euro à cette institution-là, Natacha Valla, vous y avez travaillé il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous pensez que cette prise de conscience est réelle ou est-ce qu'il y a toujours cette espèce d'antipathie et de méfiance foncière?
Non, elle a été tardive. Je pense qu'il y a eu au sein de la communauté des banques centrales une grande réticence par rapport au digital. Et c'est là que je dis bravo à cette technologie qui a poussé un peu les banques centrales dans leur retranchement et qui les a poussées en avant dans l'innovation sur la forme que prend la monnaie. La réserve fédérale était encore pire que la BCE en l'occurrence. Et puis là, ça fait quand même 5-6 ans qu'on pousse le feu sous le projet de l'euro digital ou des monnaies digitales de banques centrales. On pousse les initiatives de coordination pour créer des réseaux très intégrés avec les technologies les plus poussées. Alors effectivement, il y a des modalités qui vont être plus ou moins favorables et il faut être actif dans ces discussions pour savoir ce sur quoi on va aboutir. Mais Donald Trump a coupé le soutien américain à toutes ces initiatives-là. Pourquoi ?
Vous avez pourquoi ? Pourquoi ? Mais bon, grâce à vous quatre, et je vous remercie tous les quatre, on a un certain nombre de réponses et un certain nombre d'éclairages qui permettent, je crois, de mieux comprendre cette autre dimension, à la fois des rivalités et de l'accélération technologique auquel nous sommes tous soumis. Donc, Natacha Valla, je signale en particulier une tribune que vous venez de signer dans Le Monde. Comment riposter aux États-Unis sans se perdre dans une escalade autodestructrice? C'est une question qu'on peut poser non seulement en matière de crypto, mais beaucoup d'autres domaines. Claire Balva, vous avez co-signé avec Alexandre Stachenko un ouvrage sur Bitcoin et crypto-monnaie facile. Un ouvrage qui a été réédité aux éditions First l'été dernier. Alors, François Volpouch, je rappelle que vous dirigez donc Chain Analysis pour l'Europe, l'Afrique francophone et le Moyen-Orient, si j'ai bien compris. Et donc, sur le site de votre entreprise, il y a donc, si j'ai bien compris, un rapport annuel sur les activités criminelles. Et donc, c'est évidemment tout à fait passionnant. David Pucheux, dans la revue Réseau, vous avez signé un papier sur l'argent liquide digital, le futur antérieur des crypto-monnaies. Voilà. À la réalisation ce matin, bien sûr, Luc-Jean Reynaud, à la technique Ludovic Auger. Laura Dutèche-Pérez m'a aidé à préparer cette émission, ainsi que la documentation de Radio France. Nous sommes samedi, voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.